Chapitre 13. Le réquisitoire. Les deux captifs s'allongeaient sur deux canapés du salon. Monsieur Arnold, touché assez durement à la cuisse, exhalait des plaintes sourdes. Charlotte souffrait moins, quelques plombs seulement lui ayant cinglé le mollet. Bertrande et Catherine les contemplaient avec stupeur. Elles n'en croyaient pas leurs yeux. Arnold et Charlotte, deux serviteurs dont l'attachement leur avait toujours paru sans limite, deux confidents, deux amis presque. C'étaient eux les coupables. Ils avaient machiné toute la sombre aventure. Ils avaient trahi, volé, tué. Béchou, lui, montrait un visage décomposé et gardait l'attitude accablée d'un monsieur sur qui se sont appesantis les pires malheurs. Il se pencha sur la cuisinière et lui parla tout bas, avec des gestes où il y avait de la menace, des reproches et du désespoir. Elle haussa les épaules et sembla lui répondre par une insulte dédaigneuse qui le mit hors de lui. Raoul le calma. « Défais ces liens, mon vieux Béchou. Ta pauvre amie n'a pas l'air à son aise. » Béchou défit les deux courroies qui serraient les poignets. Mais aussitôt libérée, Charlotte tomba à genoux devant Bertrande et recommença ses lamentations.
« Je n'y suis pour rien, madame. Que madame me pardonne. Madame sait bien que c'est moi qui ai sauvé monsieur Davenac. »
Béchou se redressa brusquement. Dans son désarroi, l'argument lui semblait irréfutable et le soulevait d'une force imprévue.
« Mais c'est vrai ? De quel droit vient-on nous dire que Charlotte est coupable ? Et puis, coupable de quoi ? Car après tout, quelle preuve a-t-on contre elle ? Et quelle preuve aussi a-t-on contre Arnold ? Ou plutôt, quelle charge ? De quoi les accuse-t-on ? »
Béchou, comme on dit, reprenait du poil de la bête à mesure qu'il pérorait. Il s'excitait, provoquait, gagnait du terrain et, tourné vers Raoul, attaquait son adversaire en face.
« Oui, je te le demande. De quoi l'accuses-tu, cette malheureuse ? De quoi même accuses-tu Arnold ? Tu les as surpris au bord de l'eau, à la Bariva, tandis qu'ils devaient être dans le train de Paris. Et après, s'ils ont préféré retarder leur départ d'un jour, est-ce un crime ?»
Bertrande hochait la tête, impressionnée par la logique de Béchou. Et Catherine murmura
« J'ai toujours connu Arnold. Grand-père avait toute confiance en lui. Comment imaginer que cet homme-là ait pu tuer le mari de Bertrande, c'est-à-dire de la fille même de grand-père ? Et pourquoi aurait-il agi ainsi ?»
Raoul prononça le plus tranquillement du monde « Je n'ai jamais prétendu qu'il eût tué M. Guersin. »
Alors
expliquons-nous. L'affaire est obscure, compliquée. Débrouillons-la ensemble. J'ai idée que M. Arnold nous y aidera. N'est-ce pas, M. Arnold ?
Le domestique, délivré de ses entraves par Béchou, se tenait assis, tant bien que mal, sur un fauteuil. Son visage d'ordinaire indifférent et qui cherchait plutôt à passer inaperçu montrait maintenant une expression de défi et d'arrogance qui devait être la véritable. Il répliqua.
« Je ne crois rien. »«
Pas même la police ?»«
Pas même la police. »«
Et si on te livrait ?»«
Vous ne me livrerez pas. »«
C'est une sorte d'aveu que tu fais. »«
Je n'avoue rien. » « Je ne nie rien. Je me moque de vous et de tout ce que vous pourrez dire. »«
Et vous, sympathique Charlotte ?»
La cuisinière semblait avoir recouvré quelque courage en écoutant le sieur Arnold. Elle répliqua fortement.
« Moi non plus, monsieur. Je ne crains rien. »«
Parfait. Vos positions sont prises. »«
Nous allons voir si elles correspondent à la réalité. »
Ce sera vite fait. »
Et Raoul, tout en se promenant les mains au dos, commença.
« Ce sera vite fait,
quoique nous soyons obligés de reprendre l'affaire à son début. Mais je me contenterai d'un simple résumé qui donnera aux événements leur place chronologique et leur valeur naturelle. Il y a 7 ans, c'est-à-dire 5 ans avant sa mort, M. Montessieu engagea comme valet de chambre M. Arnold, âgé de 40 ans à cette époque, et qui lui avait été recommandé par un de ses fournisseurs, lequel s'est pendu depuis à la suite de spéculations assez louches. Arnold, intelligent, adroit, ambitieux, dut se rendre compte assez vite qu'il y aurait quelque chose à faire un jour ou l'autre chez un vieillard aussi mystérieux et aussi original que son patron. Il le soigna, se plia aisément à ses habitudes et à ses manies, obtint sa confiance, devint son serviteur, son garçon de laboratoire et son factotum. Bref, se fit indispensable. Je retrace cette période d'après ce que vous m'avez raconté, Catherine. Et vous me l'avez raconté sans trop savoir que je vous interrogeais et au hasard de vos souvenirs. Or, ces souvenirs évoquaient souvent une certaine part de méfiance que votre grand-père gardait toujours, même avec Arnold, et même avec vous, qui étiez pourtant sa préférée, et qui ne pouviez pas songer qu'il avait des secrets, et qu'il serait peut-être utile de connaître ses secrets. Raoul s'interrompit, constata l'attention profonde que lui prêtaient ses auditeurs, et poursuivit. Ses secrets, ou plutôt ce secret, c'était la production de l'or. Nous le savons aujourd'hui. Mais il est de toute certitude que le domestique Arnold le savait à cette époque, puisque M. Montessieu ne s'en cachait pas absolument, et qu'il montra même à son notaire, Maître Bernard, le résultat de ses recherches. Ce qu'il cachait, c'était son procédé. Et c'est cela que M. Arnold voulait à tout prix connaître. Secret de fabrication. Il y avait bien le laboratoire établi dans le grenier. Il y avait bien le laboratoire, plus mystérieux, établi dans le sous-sol du pigeonnier, ainsi que vous me l'avez dit, Catherine, et pour lequel M. Montessieu fit amener l'électricité au moyen de fils que l'on a retrouvés. Mais fabrique-t-on de l'or? Les laboratoires n'étaient-ils pas un trompe-l'œil? Ne servaient-ils pas à d'autres buts, dont le principal était précisément de laisser croire à la fabrication de l'or? Ce sont là des questions que M. Arnold devait se poser, et pour la solution desquelles il épiait son maître obstinément, et vainement aussi. Au fond, je suis persuadé qu'à la mort de M. Montessieu, il n'en savait pas plus que je n'en savais, moi, avant la lecture du testament. Et cela se réduisait, somme toute, à supposer, d'après un certain nombre de déductions, qu'il y avait relation entre la présence de l'or à la Bariva et le cours d'une rivière à travers le domaine, et dans la partie de cette rivière qui traverse le domaine. Dès le début, mes yeux se fixèrent sur l'eau limpide de l'Aurel. Et dès le début, je notai ce nom de la rivière, dont l'étymologie est significative. Aurel, c'est la rivière de l'or, n'est-ce pas? J'ai donc vécu sur la barque. J'ai pêché sur la berge, tâchant de découvrir quelques parcelles du métal qui eût roulé sur le fond ou flotté entre deux eaux. M. Arnold devait agir comme moi durant les vacances que son maître et Catherine prenaient aux approches de Pâques et au mois d'été. Il poursuivait d'ailleurs son œuvre tout en exécutant de fructueux coups de main dans la région où l'on avait fini par le désigner sous le nom de l'homme au grand chapeau. Je suis convaincu, Béchou, que si l'on cherchait les dates de ses exploits, dont je ne t'avais pas encore parlé, je crois, elles correspondraient au séjour d'Arnold à la Bariva. Et puis survint la mort de M. Montessieu, que suivit le vol du testament, vol dont j'aurais tendance à attribuer la responsabilité à M. Arnold. C'est lui qui dut prévenir M. Guersin, offrir ses services, révéler certains détails relatifs à son maître et finalement proposer un plan d'action. Résultat, M. Guersin se rend à la Bariva et organise avec le bûcheron Vauchel la transplantation des trois saules. Désormais, la rivière fait partie du lot dont, un jour ou l'autre, héritera Madame Guersin. Tout se combine ainsi entre les deux hommes, lentement, car il leur manque les éléments de la vérité. La rivière est bien au centre des opérations futures. L'or est là, quelque part. Mais comment résoudre le problème sans les explications qu'a promises M. Montessieu et qu'Arnold et M. Guersin ne réussissent pas à découvrir? Un seul renseignement, si c'en est un, et s'il se rapporte à l'affaire. La série de chiffres tracés à la fin du testament par M. Montessieu. C'est peu, et il est à présumer que M. Guersin n'en a jamais trouvé la signification, et que même il n'y a jamais attaché d'importance. Cependant, il faut agir. Le mariage éventuel de Catherine précipite les choses. Les deux sœurs décident de s'installer ici. Tant mieux, Arnold sera sur place. Il correspond avec M. Guersin. Celui-ci arrive, soudoie le clerc de notaire, Fameron, fait en sorte de donner sa valeur au testament en l'introduisant dans le dossier Montessieu, commence ses investigations dans le parc.
« Et meurt assassiné par le domestique Arnold !»
s'écria ironiquement Béchou, lançant la même objection qu'il avait déjà lancée lors d'un premier débat.
« Par le domestique Arnold, qui était sur le seuil de la cuisine quand le meurtre fut commis, et qui me suivit lorsque je m'élançais vers le pigeonnier, sur le seuil duquel on avait tiré un coup de revolver !»
Tu te répètes, Béchou. Et moi, je me répéterai en te répondant que le domestique Arnold n'a pas tué M. Guersin.
En ce cas, montre-nous le coupable. Ou bien c'est Arnold, et tu affirmes que non. Ou bien c'est un autre, et tu n'as pas le droit d'accuser Arnold d'un crime qu'il n'a pas commis.
Il n'y a pas eu de crime.
M. Guersin n'a pas été assassiné?
Non.
De quoi est-il mort? D'un rhume de cerveau?
Il est mort par suite d'une série de hasards funestes déclenchés par M. Montessieu.
Allons bon, voilà que le coupable serait M. Montessieu, lequel n'existait plus depuis près de 2 ans.
M. Montessieu était un maniaque et un illuminé. Et c'est là toute l'explication. Maître de l'or, il n'admettait pas qu'un autre puisse s'emparer de ce qu'il avait tant cherché et de ce qu'il avait enfin découvert. Figure-toi qu'un avare ait entassé dans le sous-sol du pigeonnier un trésor inestimable et que M. Montessieu pouvait croire inépuisable. Ne penses-tu pas que cet avare accumulerait les précautions pour défendre son bien durant son absence? Or, les dernières années de sa vie, M. Montessieu ne pouvait plus supporter l'hiver assez rude des bords de la Seine. Et pendant l'été qui précéda sa mort, il profita des fils électriques que le fils Vauchel avait posés dans son laboratoire souterrain pour installer seul, en grand secret, un système capable de défendre automatiquement, mécaniquement, l'entrée du pigeonnier. Il suffisait qu'un intrus tentât d'ouvrir la porte pour qu'un revolver placé à hauteur d'homme fît feu sur lui et l'atteignit en pleine poitrine. C'était mathématique, inéluctable. Son chef-d'œuvre achevé, M. Montessieu, pour plus de sûreté, fit mettre de chaque côté du pont vermoulu une pancarte avec cette inscription. « À réparer, passage dangereux ». Puis, ainsi qu'à la fin de chaque mois de septembre, il ferma la maison, emporta les clés et partit pour Paris avec Arnold et Catherine. Le soir même, il mourait d'une congestion. Je ne doute pas que sa volonté ne fût de laisser des instructions pour que, en cas de décès, nul n'essayât de pénétrer dans le pigeonnier sans avoir bloqué le système. Mais il n'en eut pas le temps, pas plus qu'il n'eut le temps de révéler le secret de l'or. 20 mois se passèrent. Un hasard voulut que personne n'essayât d'ouvrir le pigeonnier, personne n'osant évidemment s'aventurer sur le pont vermoulu de l'île. Un autre hasard voulut que l'humidité ne détériorât ni les fils électriques, ni les balles du revolver. Bref, lorsque M. Guersin, ayant appris que Catherine traversait fréquemment le pont, s'y risqua à son tour, s'approcha du pigeonnier et ouvrit, il reçut la balle en pleine poitrine. Et c'est ainsi qu'il ne fut pas assassiné, mais qu'il mourut victime du hasard. Les deux sœurs écoutaient Raoul avec une attention passionnée et la conviction manifeste qu'il ne se trompait pas. Béchou demeurait renfrogné. Le domestique, penché en avant, ne quittait pas des yeux Raoul d'Avenac. Celui-ci reprit.
Arnold connaissait-il le piège tendu ?
D'après ce que je sais, il n'allait jamais dans l'île. Méfiance raisonnée ? Abstention fortuite ? Je n'en sais rien. Toujours est-il qu'après la mort de M. Guersin, il restait le seul chef du complot destiné à capter les trésors de M. Montessieux. La justice, représentée par le juge d'instruction, ne comprenait rien à l'affaire. Et pas davantage la police, représentée par le brigadier Béchou, lequel, en toutes circonstances, je dois le dire, se montra d'une insuffisance déplorable. Béchou interrompit, en haussant les épaules. « Tu prétendrais avoir deviné cela sur l'heure, toi ?»«
À la minute même. »
Du moment qu'il n'y avait personne pour commettre le crime, c'est qu'il s'était commis tout seul.
De là à comprendre la situation, il n'y avait qu'un pas.
Et je l'ai franchi aussitôt, en examinant les fils électriques et le revolver. Donc, pour en revenir à M. Arnold, il était libre d'agir à sa guise, tout en parant au péril qui pouvait survenir. Ainsi, Dominique Vauchel, qui avait travaillé avec M. Montessieux, savait certaines choses et devait en avoir deviné certaines autres. Bien que peu loquace, il avait parlé à sa mère, et la vieille folle bavardait à tort et à travers sur les trois chaules et sur les dangers courus par Catherine. Il fallait donc veiller au grain. Et c'est pourquoi Arnold a commencé par se débarrasser de Dominique Vauchel, puis de la mère Vauchel.
Eh bien non, c'est ce qui te trompe. Arnold n'est pas un assassin.
Et cependant, puisque Dominique Vauchel et sa mère ont été tués,
il n'a tué ni l'un ni l'autre.
Arnold n'a tué personne, si on appelle tuer commettre un crime avec préméditation. Et pourtant, c'est le jour même où Catherine Montessieux avait pris rendez-vous avec Dominique Vauchel, et quelqu'un qui était caché à Arnold ou un autre a entendu ce rendez-vous. C'est ce jour-là que Dominique Vauchel a été écrasé sous un arbre.
Et après ?
N'est-ce pas un accident tout naturel ? Donc, coïncidence ?
Oui.
L'hésitation du médecin ? Erreur. La massue trouvée ?
Écoute, Théodore. Après tout, tu n'es pas aussi crétin que tu veux bien le laisser croire, et tu saisiras la valeur de mon raisonnement. La mort de Dominique Vauchel a précédé celle de M. Guersin, mais elle fut l'un de ces incidents qui, avec la transplantation des trois saules et avec la prédiction de la mère Vauchel, ont effrayé le plus Catherine Montessieux. Je suppose qu'à cette époque, il s'est produit dans l'esprit de M. Guersin et d'Arnold une certaine clarté relative au testament, ou du moins aux explications qui devaient être ajoutées par M. Montessieux. Peut-être est-ce l'énigme des chiffres inscrits sur le document qu'ils ont résolu. Toujours est-il qu'un autre plan s'est imposé au domestique Arnold. Un plan fondé sur cette terreur croissante que le meurtre de M. Guersin devait porter à son comble. Et tout de suite, le jour même de ce meurtre, la mère Vauchel, devenue tout à fait folle, était enfouie sous les feuilles sans qu'il soit possible d'affirmer la volonté de meurtre. Et quelque temps après, la pauvre folle tombait de son échelle sans qu'il soit possible d'affirmer autre chose que l'intention de la faire tomber de son échelle.
Soit, mais quel est le plan du domestique Arnold ? À quoi veut-il arriver ?
À ce que tout le monde quitte le manoir. Il est venu ici pour prendre de l'or. Mais il s'est aperçu qu'il ne prendra cet or, qu'il ne pourra accomplir l'œuvre nécessaire pour le prendre, que si le manoir est vide et que personne ne puisse le surveiller.
il faut que le manoir soit vide avant une date fixe, qui est le 12 septembre. Et pour obtenir ce résultat, il faut créer ici une atmosphère d'épouvante qui, fatalement, obligera les deux sœurs à partir. Il ne les tuera pas, parce qu'il n'a pas les instincts d'un meurtrier. Mais il les chassera d'ici. Et un soir, il entre par la fenêtre dans la chambre de Catherine et la prend à la gorge. Attentat, diras-tu. Oui, mais attentat simulé. Il prend à la gorge, mais il ne tue pas. Il en avait le temps. Mais à quoi bon? Ce n'est pas son but. Et il s'enfuit.
Soit, mais si c'était réellement Arnold que nous avons discerné dans le parc, qui a tiré sur lui, de sa propre chambre, un coup de fusil?
Charlotte, sa complice. En cas d'alerte, c'était chose convenue entre eux. Arnold fait le mort. Quand nous arrivons, plus personne. Il est remonté chez lui et nous le rencontrons qui redescend le fusil à la main.
Mais par où est-il remonté?
Il y a trois escaliers, dont un à l'extrémité et dont il se sert évidemment chaque fois qu'il fait quelques coups, la nuit.
Mais si c'était réellement lui le coupable, il n'aurait pas été attaqué. Et Charlotte non plus.
Simulation. Il ne faut à aucun prix qu'on les soupçonne. Il démolit une planche du pont et il en y quitte pour un bain. Une poutre du hangar se détache, le hangar s'écroule, mais Charlotte n'est pas atteinte, bien entendu. Seulement, la terreur augmente ici. Les deux sœurs ne veulent plus rester. Et comme elles hésitent, nouvelle agression. Un coup de feu tiré à travers la vitre sur Bertrand de Montessieux. Un coup de feu qui ne l'atteint pas, bien entendu. Le manoir est fermé. On s'installe au Havre.
Arnold et Charlotte également.
Et après? Ils demanderont un congé, voilà tout. Un congé qui leur permettra d'être au manoir furtivement le 12, le 13 et le 14 septembre. Et j'ai tellement l'intuition, ou plutôt la conviction raisonnée, que ces dates gouvernent tout, que lorsque je vous ramène toutes deux ici sur la convocation du notaire, il suffit pour avoir la paix que vous annonciez catégoriquement votre départ pour le 10 ou le 11 au plus tard. Dès lors, trois semaines de tranquillité. Le manoir sera vide. Cependant, la date approche. Arnold a peur. Il a d'autant plus peur que Charlotte doit lui rapporter certaines réserves que Madame Guersin semble faire. Le départ n'est-il pas simulé? Ne reviendra-t-on pas à l'improviste? Je ne suis pas homme à lâcher la partie. Il le sent. Il s'inquiète. Et cette fois, il agit avec moins de scrupules. Au moment de gagner la bataille, il ne recule pas devant une attaque plus grave. Et comme il épie mes promenades en barque, un soir, il fait rouler un quartier de roc sur moi. Sur moi et sur ses deux patronnes qui m'accompagnent à son insu. Là, vraiment, il y a attentat. Et si nous échappons, c'est bien par miracle. Mais la guerre est déclarée. Je suis décidément l'ennemi. Il faut me supprimer. Arnold m'épie, ne perd pas un de mes gestes, ne craint pas de se découvrir à moitié en me lançant sur la piste de l'homme au chapeau. Et c'est alors l'agression suprême, où il risque le tout pour le tout. Après m'avoir attiré vers les ruines de la serre, il m'y ensevelit. Puis il prend mon auto, car il sait conduire ce qu'il vous avait caché, file sur Paris et vous envoie, signé de mon nom, un télégramme qui vous prie toutes les deux de me rejoindre. Si vous ne vous étiez pas défié, il restait seul au manoir, comme il le voulait. Dépité, furieux, constatant que je réussis à creuser une galerie par où m'échapper, il fait tomber sur moi tous les décombres. Sans Charlotte, j'étais perdu.
Et tu vois bien, sans Charlotte, c'est toi-même qui le dis. Et donc Charlotte n'est pour rien dans l'affaire.
Elle est sa complice, de la première heure à la dernière.
Et non, puisqu'elle t'a sauvé.
Un remords. Jusqu'ici, elle acceptait tout d'Arnold, l'approuvait et collaborait à tous ses actes. Au suprême moment, elle n'a pas voulu du crime qui s'accomplissait. Ou plutôt, elle n'a pas voulu qu'Arnold fût un criminel.
Mais pourquoi? Que lui importait?
Tu veux le savoir?
Eh oui.
Tu veux savoir pourquoi elle n'a pas voulu qu'Arnold fût un criminel?
Eh oui.
Parce qu'elle l'aime.
Hein? Que dis-tu? Qu'est-ce que tu oses dire?
Je dis que Charlotte est la maîtresse d'Arnold. Béchou leva les poings et hurla.
Tu mens! Tu mens! Tu mens!